Eh bien bonjour et bienvenue sur Fréquence Mistral pour ce quartier libre sur la semaine du son où aujourd'hui j'ai beaucoup d'invités dans notre petit studio et je suis ravie d'accueillir donc Patrick Romieux, anthropologue du son, chercheur au CNRS et accompagné d'une petite équipe d'étudiants. Il y a Audrey, Théo et Fabien. Et puis dans la deuxième partie de l'émission, on retrouvera Laurie Honoré du musée Gassendi qui nous parlera des autres participants de la semaine du son. Et puis accompagné de Julie Michel et d'Olivier Crabé de la compagnie Night Owl. Tout de suite donc bonjour Patrick Romieux et bienvenue. Donc on vient d'écouter en entrée en matière, qu'est-ce que c'était ?
Oui, alors pour commencer, puisque nous sommes sur Fréquence Mistral, il m'est venue une phrase que je trouve très très belle et qui résume vraiment pour moi le son. Et cette phrase vient d'un film, justement, qui est un très très beau film sonore de Luc de Bresson, et qui s'appelle « Condamné à mort, s'est échappé ». Et cette phrase, le film commence par « Le vent souffle où il peut ». Voilà, donc je propose à Radio Mistral une publicité qui est de dire « Radio Mistral, le vent souffle où il peut ». Donc, ce que nous venons d'entendre est pour moi un document sonore très émouvant et qui m'a été offert par des personnes lors d'un colloque sur le son il y a déjà quelques années et qui est un enregistrement de la Cisjordanie où on peut entendre un drone israélien en surveillance d'une vallée. Et c'est tout à fait illustratif de ce que le sonore peut porter tout seul, je dirais, sans aucun secours visuel ou autre. Donc c'est véritablement la puissance du son qui illustre une inquiétude, qui exprime une agitation, qui exprime une grande nervosité de la part. Et justement, ça pourra peut-être rejoindre aussi ce que diront ceux qui viendront après moi, le rapport à l'animal, c'est-à-dire ce partage, en fait, pas d'un côté les animaux, pas d'un côté les hommes, mais ce partage, justement, du monde et du monde sonore que nous avons avec les animaux, où là, ce ne sont pas des gens qui expriment quelque chose, mais effectivement, les chiens qui, comme on disait autrefois, je ne sais plus si ça se dit encore ce mot, qui jappe, moi j'aime beaucoup ce mot, japper plutôt qu'aboyer, mais je crois que c'est un peu disparu, qui aboie, en tout cas, et on entend... On est vraiment dans une ambiance qui finalement se suffit à elle-même, une espèce de clôture comme ça, du son sur lui-même, où on n'a pas besoin de véritablement l'expliciter. Je crois qu'on peut entendre effectivement une tension, un état qui est là, un état de surveillance, et puis c'est très contemporain pour de nombreuses raisons. Et dernier point que je voudrais dire, ça va peut-être rejoindre ce que nous faisons par rapport à la semaine du son, qui est aussi un autre élément qui est pour moi absolument indispensable, c'est la dimension toujours politique au bon sens du terme, au vrai sens du terme du sonore. Le son est essentiellement politique parce qu'il est essentiellement partagé, qu'il est essentiellement collectif. Et ça, c'est, je crois, très très important. Voilà.
Alors cette semaine du son, c'est sa 14e année. Vous êtes un peu à l'origine ou à l'origine de cette semaine du son à Digne ?
Alors, en ce qui concerne le Digne, oui, mais ça vient aussi de c'est pas individuel, je dirais que c'est une aventure collective qui s'est tramée il y a déjà une quinzaine d'années entre les professionnels et les gens qui travaillaient sur le son. Et à l'époque, il faut dire que c'était très marginal. Le son, et je suis allé en Italie il n'y a pas tellement longtemps, j'ai pu me rendre compte, est quelque chose qui est tout à fait, pour des raisons qu'on peut tout à fait expliquer d'ailleurs, et je dirais un peu le vent en poupe, et je dirais un peu mode à l'heure actuelle, pour des raisons très compréhensibles. Mais au départ, c'était plutôt des gens qui avaient envie de réfléchir en dehors des laboratoires, comme par exemple mon laboratoire, le Cresson, qui a été fondé en 1979 et qui est aussi précurseur de toutes ces questions-là, puisqu'il s'appelle le Centre de recherche sur l'espace sonore et l'environnement urbain, dès le départ, créé par Jean-François Goyard. Et je dirais qu'au départ, c'est l'idée donc que les gens doivent s'approprier cette dimension qui est essentielle dans la vie de tous les jours, mais qui, pour X raisons, disparaît en permanence. C'est-à-dire le son, à peine émis, va mourir, va disparaître, à moins qu'on l'enregistre. Ça, c'est tout à fait autre chose. Et souvent, il y a une confusion entre le son vécu en situation, comme on dit, et le son reproduit par quelque moyen que ce soit. Et à l'heure actuelle, on sait très bien que tous les moyens technologiques permettent à n'importe qui, et c'est très bien aussi, d'enregistrer, ce que les gens font peu d'ailleurs, parce que les gens ont tendance à faire des photos plutôt que d'enregistrer. Mais voilà. Donc au départ, c'est cela. Et c'est vrai qu'après, nous avons donc, comme moi, Digne, c'est mon pays. Et je me suis dit, habitant ici, oui, cette préoccupation qui est nationale et qui est aussi, d'ailleurs, je dirais, internationale, puisque la semaine du son maintenant est internationale. Et Christian Hugonnet a la volonté, et ça, ça s'est fait à Paris la semaine dernière, de créer véritablement une semaine mondiale, hein, du son, que tous les pays soient concernés. Ça le regarde un petit peu. Moi, je dirais que je ne partage pas nécessairement ce point de vue, parce que je pense qu'il y a peut-être des pays qui ont autre chose à faire prioritairement que de s'occuper de leur environnement sonore, mais pourquoi pas. Ce n'est pas non plus, je dirais, quelque chose qui est en plus, hein, puisque, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment cette patte qui nous unit en permanence. Donc oui, amener la semaine du son ici, on l'a fait avec beaucoup, à l'époque, avec notamment Michel Bonafoux, hein, qui était donc ingénieur du son à notre association, qui a d'abord été Archimeda, qui a été d'abord à Cousson. Et puis maintenant, depuis 4 ans, nous développons le premier observatoire sonore qui soit en France, suite à des tas de discussions aussi que nous avons eues avec l'écologie sonore, avec un grand réseau, hein, et notamment le réseau Ambiance aussi, qui est un réseau international, où nous avons eu un colloque là, à Volos, au mois de septembre, donc en Grèce, hein, et où il n'y a pas effectivement que la dimension sonore, mais tout un travail sur les ambiances, sur le sensoriel, je dirais. D'accord ? Donc effectivement, oui, il y a eu différentes choses, et maintenant, c'est arrivé à un point aussi de partenariat, qui pour moi est important, dans le sens qu'il peut pose des questions. Il pose notamment les questions entre l'importance d'un dispositif qui soit un dispositif de recherche, donc lié à un réseau de chercheurs au niveau national et au niveau international, mais la recherche internationale, avec une préoccupation du son collectif, c'est-à-dire comment ça nous unit ou ça nous désunit. Et à ce propos, une chose très intéressante, parce que nous avons fait un comité de pilotage au niveau national où il y a des gens très différents les uns des autres, notamment mon ami Michel Ries de Décor Sonore, hein, qui fait beaucoup de choses au niveau du son depuis très très longtemps, qui est venu d'ailleurs à Digne, hein, il y a, je crois, une douzaine d'années, où à l'époque on faisait des formations avec Michel Crespin sur le son dans la ville. Et donc, il y a une réflexion qui est faite par ce comité de pilotage. Et à Paris, il est sorti deux choses que moi je trouve essentielles, qui est notamment la place du sonore dans l'achat et dans l'habitat. Hein, c'est-à-dire quand vous allez acheter un appartement, en général, on ne vous dit pas. Hein, on ne vous dit pas son exposition sonore, on ne vous dit pas à quoi vous allez être
exposé.
Et donc là, il y a une dimension qu'on voit qui est essentiellement économique et qui est très politique aussi. C'est-à-dire que l'idée très politique qui est là derrière, je dis bien essentiellement politique, au moment où nous sommes dans un moment vraiment très politique, parce qu'il va y avoir des élections, parce que au niveau, je dirais, de la planète monde, il y a un changement, et ça j'en parlerai dans ma conférence, anthropologique très très profond, qui fait qu'en fait on est incapable de comprendre ce qui se passe à l'heure actuelle, ou un minimum de choses. Les choses sont beaucoup plus vite que la compréhension qu'on peut en avoir. Et donc là, il y a vraiment, je pense, une réflexion à mener sur ça, pour notamment que les gens prennent en considération l'environnement. Et le deuxième point, par rapport à l'observatoire sonore à l'heure actuelle, après je vais passer à la question du partenariat, c'est ce que nous lançons, qui est la notion de correspondant audio. Correspondants audio sont des gens, comme vous et moi, à qui on demande d'avoir une écoute attentive un petit peu de leur environnement. Et deux fois par an, nous rencontrons ces gens, nous leur posons quelques questions. Je précise aussi qu'ils peuvent eux-mêmes faire des enregistrements, hein, même s'ils ne sont pas de bonne qualité, peu importe, hein, des enregistrements qui sont des témoignages de leur environnement sonore, pour réfléchir ensemble à la fois dans quel monde sonore nous vivons et aussi ce qu'il peut devenir, et qu'ils aient peut-être là un mot à dire lorsqu'il y a un projet urbanistique, lorsqu'il y a un changement de quartier, lorsqu'il y a le projet d'une route, voire d'un aéroport, comme ça se passe à Notre-Dame-des-Landes, hein, etc. Il y a toutes ces questions qui sont véritablement là. La question du son, elle est collective, elle mobilise tout le monde et elle a son mot à dire. Alors le deuxième élément, justement, là j'en viens au partenariat que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'effectivement la relation avec le partenariat qui se fait avec le musée Gassendi amène une autre dimension qui est, je dirais, la dimension, c'est normal, un musée c'est un musée, la dimension de l'art et aussi donc de l'art sonore. Là, on est tout à fait dans une autre problématique, puisque, en général, sur l'art, on est dans une problématique individuelle. Et notamment, on le verra, ils en parleront mieux moi. Lorsqu'on parle d'un artiste sonore, et là, il y en a un dont on parle beaucoup, évidemment, c'est c'est un travail, je dirais, individuel, c'est un travail esthétique, c'est une réflexion, c'est une aventure qu'on peut effectivement illustrer d'un point de vue collectif, mais qui n'est pas une aventure collective. Hein. Voilà, je crois qu'on en est un peu à un moment où les choses peuvent devenir très, très intéressantes, et à partir du moment où elles sont explicitées, toujours remises en contexte. Il ne faut pas oublier que le son, ça n'existe pas en tant que tel. Le son, c'est toujours une affaire de contexte. C'est contextuel. Hein. Un son, ça se répercute sur une paroi, ça revient, et ça ne revient pas de la même manière, etc. Donc il y a toujours un contexte.
Merci, Patrick. Vous allez inaugurer donc cette semaine du son, ce sera déjà lundi 6 février, par une conférence.
Non, m'excuse, lundi 6 février, ce n'est pas du tout la conférence, elle a lieu le mardi.
D'accord, erreur. Un gage.
Non, mais c'est pas grave.
Je vais être sanctionné.
Il y a deux choses, donc je vais être très bref. Je vais être très, très bref. Donc, deux choses dans cette. Deux éléments, mot chose. Très intéressant de dire le mot chose dans le son. En philosophie, on réfléchit aussi qu'est-ce qu'une chose. Deux éléments, donc. Hein. Premier élément, c'est effectivement présenter le premier travail de recherche vraiment de l'Observatoire sonore, qui est lié à l'accident d'avion. Qui a eu, tout le monde a entendu parler, de la Germanwings, qui a eu lieu pas loin d'ici. Et la question étant de se poser, qu'est-ce que l'écoute, qu'est-ce que le sonore peut dire ou ne pas dire d'un événement qui a été perçu du point de vue du son quasiment par personne. Et c'est pour ça que la conférence s'appelle, je l'ai appelée, comme un avion sans bruit. Hein, et où toutes les informations sont quasiment circulées sur Internet, par les médias, et d'ailleurs ici il y a eu véritablement une fournée, hein, je dirais une véritable fourmilière de journalistes, qui a été très très mal reçue d'ailleurs, hein, dans les pays notamment à Seine-les-Alpes. Hein. Et donc là, nous sommes deux, il y a Stéphane Loy qui est à l'Observatoire et qui est un ami à moi qui fait, qui fait un film là-dessus, qui s'attache lui, du point de vue de son travail, qui s'attache à suivre le filet, je dirais, la manière dont ça a été représenté, la manière dont ça a donné naissance, notamment sur le net, à énormément de mises en fiction, hein, voire de délire. Hein. Il y a les choses les plus intéressantes qui ont eu lieu dans cet endroit qui est très, très fragile du point de vue du ciel, parce que théoriquement, il correspond aussi à la base d'extraterrestres des Humo arrivés en 1950 à la Javie, dont personne ne parle, hein. Si ce n'est effectivement sur le net, d'ailleurs, vous avez un énorme brassage autour de tout ça. Mais c'est absolument passionnant de savoir qu'ici, on parle peu de ça et qu'avant cet accident, il y en a eu au moins 4 ou 5. Hein. Il y a eu au moins 4 ou 5 accidents, de forteresse volante, après la guerre, etc., etc., etc. Donc il y a cette dimension-là. Et ce que je m'attelle, moi, à faire en tant que chercheur, c'est de retourner sur le terrain, c'est là où il y a le complément par rapport au film, de retourner sur le terrain pour voir les installations, des choses ont été mises, il y a une stèle, hein, cette volonté d'essayer de comprendre, hein, un phénomène qui a disparu un petit peu, donc je dirais de l'écoute. Alors que quand on se penche sur les tout premiers témoignages qui ont eu lieu, il y a la boîte noire, il y a les voix, il y a la respiration du pilote jusqu'au dernier moment. Et moi, la première chose que j'ai faite, parce que je suis rentré en ethnographie de ça immédiatement, parce que j'étais sur ma terrasse, sur cette route, hein, sur laquelle je travaillais chez moi, et j'entends une sirène, j'entends les sirènes au départ. Donc on a interrogé les gens aussi sur la traversée sonore de tout ce qui s'est passé par rapport au son. Il y a énormément de choses à faire. Donc là, ça sera le premier point qui sera vraiment d'explorer dans un contexte tout à fait nouveau où effectivement, c'est le buzz, comme on dit, les choses se font, hein, autour des sons. Alors à la fin, il y a une appropriation. Quand ça retourne sur le terrain, les gens, comment est-ce qu'ils vivent ça? Donc on fait beaucoup de parcours commentés, beaucoup un travail d'ethnographie sur le long terme, hein, de longue haleine. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est donc ce que, ils vont vous en parler, ce que les étudiants donc, de l'IUT de Digne, on leur a demandé à l'Observatoire sonore de continuer un travail qui est initié depuis 3 ans, qui est celui de proposer aux habitants, et ça je tiens à ça, hein, aux habitants, aux usagers, de même qu'aux touristes, parce que ces étudiants vont vous le dire, ils sont étudiants en licence professionnelle de tourisme, de mettre en valeur la dimension de l'écoute et de montrer qu'une ville, ça sonne Ça sonne toujours. Hein. Il y a une quinzaine d'années, Pascal Enfou, qui est chercheur en Cresson, a fait tout un travail de méthodologie qui s'appelle l'identité sonore des villes. Et nous réfléchissons, Henri Torgue hein, également, qui est musicien par ailleurs, qui maintenant est à la retraite, hein, mais qui est un chercheur éminent de mon laboratoire, réfléchit constamment à cette dimension de, je ne dirais pas de l'identité, parce qu'il n'y a pas d'identité sonore, mais ça c'est autre chose, hein, ça serait compliqué les choses, mais en tout cas d'une certaine singularité des lieux et des espaces. Donc ils vont, je crois, beaucoup mieux vous en parler que moi.
Se présenter et nous en parler. Merci Patrick Romieux. Donc on va passer la parole à l'un des trois étudiants. Alors c'est Théo qui va nous parler donc de cette commande, de cette mission. Bonjour Théo.
Bonjour.
Alors racontez-nous cette aventure. Ça fait donc 3 ans de ce même groupe, c'est ça?
Non.
Non, pas du tout.
Non. Tous les ans, c'est un groupe différent.
D'accord.
Ouais. Voilà. Nous sommes tous les trois arrivés au mois de septembre dans cette licence de tourisme durable et développement des territoires ruraux. Et dans le cadre de cette licence, nous avons un projet à réaliser. Nous avons M. Romieux qui est notre tuteur et qui nous a confié la mission de Enfin, il nous a confié 2 missions. La première, c'est de créer un sentier sonore d'Andigne pour montrer les capacités sonores particulières de la ville. Et la deuxième, c'est durant la semaine du son, de mettre en place...
De mettre en avant, oui, de présenter par une performance peut-être.
Voilà, présenter par une performance sonore notre travail, ainsi que de présenter ce travail par une conférence également.
Donc, une conférence que vous allez présenter quand?
Alors, la conférence, c'est le jeudi 8 février à 18h, à l'IUT de Digne-les-Bains, à l'amphithéâtre.
Et après, je crois qu'il faut rappeler qu'ils demanderont aux gens de les suivre, même ceux qui n'auront pas pu venir à la conférence, de se rendre donc dans le centre-ville. Hein.
Les personnes présentes à cette conférence, nous les accompagnerons à notre performance artistique dans les rues de Digne plus tard.
Donc d'abord il y a la conférence à l'IUT et ensuite un convoi avec les personnes intéressées pour aller à Digne au centre-ville.
Tout à fait.
Oui, un convoi ou même sans convoi, je dirais. Oui. Les gens peuvent ne pas venir à la conférence parce que je préférerais qu'ils fassent les deux. Mmh. C'est vrai que l'IUT c'est un petit peu excentré et ensuite après ça sera fait avec des étudiants de l'école d'art. Hein.
D'accord.
Et ça ils vont vous en parler.
Oui.
Alors qui prend la parole?
Bonjour à tous.
Bonjour. Donc c'est Audrey qui prend la parole.
Ça. Donc par ce projet qui est très original pour des étudiants, on s'est vraiment révélé au niveau sonore et on voit vraiment les choses d'une manière différente. Voilà, donc en fait ce qu'on désire c'est que ces lieux ne soient pas juste des lieux de passage et c'est pour ça que le titre de notre projet c'est Réinventer les scènes sonores de Digne-les-Bains. Mmh. Voilà, donc pour les apprécier à leur juste valeur, on s'est promené dans les rues de Digne-les-Bains. Voilà, donc il y a plusieurs lieux qui nous ont interpellés par leur atmosphère sonore, la réverbération selon leur architecture. Voilà, donc je pense que les gens, ils ont vraiment besoin d'une coupure dans leur quotidien, de pouvoir se poser dans des lieux. Voilà, donc c'est une forme de tourisme, on va dire... comme une forme de méditation, voilà, où on invite les gens à se poser, écouter, apprécier. Parce que, voilà, on vit dans une société où tout va vite, on passe, on se rend même plus compte du potentiel qu'a notre ville. Donc c'est quand même c'est une forme de tourisme, pas seulement pour des touristes, mais pour les habitants de Digne-les-Bains. Voilà. Donc, moi, personnellement, avec ce projet, j'ai vraiment envie de pouvoir développer ce type de tourisme par des... ce genre d'installation, et on espère aussi que ce projet peut avoir un futur. Pourquoi pas installer, y mettre des installations sonores pour créer un attrait touristique et que les gens se posent dans les endroits et voilà.
Donc là, on n'a pas besoin de casque, c'est juste se rendre dans certains lieux pour être... Les oreilles toutes ouïes dehors.
Voilà. Donc on peut peut-être vous parler un peu plus en détail des performances.
Des lieux, voilà. Enfin des lieux aussi.
Oui,
oui
lieux.
D'accord.
Je peux laisser la parole à
Fabien. Allez, on écoute Fabien. Bonjour Fabien.
Bonjour. Et bon, notre performance consiste premièrement à la une installation sonore qui se trouve à la place de Parc Central, Central Park, pardon, qui c'est derrière l'église, c'est la prison. Et donc, on va faire des installations de carillons sonores faits de matière de recyclage. Et donc, on a noté qu'il y a un niveau de son de la ville, au niveau de bâtiment, il y a une réverbération très forte. S'il y a au niveau de la autour, il y a du vent. Donc on espère que le vent va faire amener les sons des carillons en mélange avec les sons de la rivière, un son un peu bas, mais qu'on entend, et ainsi que le son vraiment de la ville, et le son des personnes qui sont au parc, ainsi que des bâtiments. Et aussi, on va faire la reproduction, la diffusion, pardon.
La diffusion.
Oui, une diffusion des enregistrements sonores et au centre, au kiosque de la musique, dans le centre de la ville, et pour changer un peu l'environnement sonore. Et faire sortir un peu les gens de ces choses qui sont d'habitude et sortir de la routine. Bon, on ne prend pas tout d'attention autour du son, et car on est habitué, on le prend comme chose et sans importance. Donc si on change un peu l'environnement, je crois que les gens va le noter. Et donc ils vont prendre un peu d'attention et dans l'environnement sonore, dans les paysages sonores de la ville.
Merci. Bien, ben c'est intéressant tout ça. Oui, Patrick.
Et je voudrais ajouter deux choses. Remercier Fabien qui est mexicain.
Oui, hein,
donc,
qui parle très bien.
Qui fait ce bel effort,
voilà,
de parler très bien en français. Ouais. Et c'est un effort pour lui. Moi, je parle pas espagnol, je me sentais vraiment incapable de le faire. Et vraiment, bravo. Je voulais juste rajouter, après je ne dis plus rien. Juste une petite chose qu'en général, ça fait partie ça, de mon travail d'observateur. Quand on parle de son, on a toujours tendance à parler de nos jours, on n'a qu'à se regarder d'ailleurs, là, tous armés jusqu'aux dents avec des armes, hein, quelles qu'elles soient, etc. et en fait, qui sont des filtres, hein, qui sont toujours des filtres parce que le son fait essentiellement peur. Et donc l'idée, c'est dès qu'on touche un peu le son, c'est vite d'aller ailleurs. Hein. Alors on va voir la musique pour tout ça, hein, très bien, voilà, et mille choses. Et donc c'est toujours cet impact direct que l'on cherche, et c'est la raison pour laquelle vous l'avez très bien remarqué, ça sera nu, oreille nue.
Vous nous avez amené un son aussi, oui. Un deuxième son, est-ce qu'on l'écoute?
Oui, en deux mots, donc il est évident que l'observatoire, et d'ailleurs j'en profite pour dire que suite à cette semaine du son, on va justement aussi mener une enquête pour voir comment les gens l'ont vécu, comment les gens l'ont perçu. C'est justement, on n'observe pas les sons. Mais lorsque quelque chose se dit, se fait autour du son, qu'est-ce qu'il en reste, quels sont les impacts. Et ça, c'est le premier point, c'est une première mission de l'observatoire sonore. La deuxième mission est plus délicate, et celle, j'ai dit plus délicate parce que c'est pas théoriquement très, très clair pour beaucoup de personnes, et pour moi le premier, c'est tout simplement la notion de témoignage de son ancien, et donc la question des archives. Hein, la fameuse... peut-être qu'on ne va pas pouvoir l'entendre. Il y a toujours un problème, hein, avec le son. Justement, j'ai amené... justement, on va l'évoquer deux minutes, mais il y a toujours un problème. Le son, ça prouve bien que ça ne peut pas être enfermé. Moi, c'est ce que j'appelle l'indomptable sonore. On ne peut pas l'enfermer. Il sort toujours. Là, la preuve, c'est qu'il ne veut pas se dire.
Hein. Il ne veut pas venir.
Il ne veut pas venir. Ah ben oui, ben c'est très bien. Moi, j'en suis ravi quelque part. Donc, il ne veut pas venir. Mais c'était très simple. Et je vais en dire deux mots. Hein, c'est pas pour avoir l'occasion de plus de parler. Parce qu'après, on me reprochera de trop parler. Et moi-même, je peux me le reprocher. Mais c'est tout simplement de dire que qu'est-ce qu'on pouvait entendre? C'est le centre, la place centrale de Digne. Avant qu'elle ne soit remaniée, avant qu'il y ait la place, on y entend notamment le son qui donnait l'heure. Moi qui suis dinois, je l'ai depuis mon enfance dans les oreilles. Mmh. Et il a changé maintenant. C'est plus le même. Et on entend aussi donc, la sirène qui va donner vie à un espace sonore, à un espace de vie. C'est très intéressant parce que donc là, ça justifie une archive qui puisse témoigner d'un urbanisme passé, qui puisse témoigner en faisant des écoutes, en redonnant aux gens la possibilité d'écouter l'espace sonore de leur ville, les différences. Ces différences qui vont être celles qui vont être à la fois celles des matériaux, parce que les matériaux jouent. Notamment, là, il y a de l'eau, il y a des fontaines qui sont rythmiques, qui donnent un certain rythme qu'il n'y avait pas autrefois. Il y a le son des passages des voitures, etc. Ce qui prouve bien que c'est constamment cet environnement que l'on produit, avec lequel on interagit en permanence, et qui est absolument essentiel. Donc voilà ce que voulait dire un peu ce... Ça aurait été bien d'entendre les sons, hein, parce que chaque fois qu'on en parle aussi, on rate le son. Hein. Donc finalement, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de l'écouter. Ce qui n'est pas la même chose, je ne sais pas si vous l'avez développé, qui n'est pas du tout la même chose que de l'entendre. Hein. Entendre, écouter, tout ça sont des choses très très différentes. Et voilà, dont on reparlera.
Merci. Eh bien, on va peut-être donc passer... nickel pour le timing. Hein. On va passer la parole à Laurie Honoré. Donc, qui va... Bonjour Laurie. Alors, si je vous mets le micro, c'est mieux. Alors peut-être vous voulez un casque, ce serait bien. J'ai noté la façon de mettre les casques de nos jeunes autour du cou, donc à savoir si vous avez des oreilles autour du cou. Certainement qu'on entend aussi par le pouls. Hein? Ouais. Laurie Honoré, donc, eh bien, parlez-nous de ces partenariats, bien sûr, avec le musée Gassendi, le Cairn. Et des autres partenaires.
Oui, c'est vrai qu'à partir du travail de sensibilisation à l'environnement sonore réalisé par l'association Acousson et Patrick Romieux, donc cette semaine du son est aussi l'occasion d'inviter différents participants. Alors c'est un temps fort au cœur de l'hiver puisque ça commence le 6 février, ça dure jusqu'au 11, qui propose un programme culturel donc activé par la synergie de plusieurs initiatives. On va les citer au départ le musée Gassendi, le Cairn Centre d'art, l'école d'art, également rejoint cette année par le Théâtre du Rance, la médiathèque, donc l'IUT, et aussi les radios locales. Voilà, c'était important qu'on associe de nouvelles personnes aussi, car chaque édition est l'occasion de lancer de nouvelles collaborations et on espère de réchauffer l'ambiance. Donc de faire des pauses aussi, puisque cette année le public est invité à circuler dans des lieux du centre-ville et comme vous l'avez proposé, de prendre le temps aussi de circuler autrement dans cette ville avec un parcours qu'on a intitulé des écoutoirs. Ce sont des points d'écoute insolites pour une diffusion d'émissions de radio, mais aussi de créations sonores. Donc ces créations sonores sont proposées pour certains par les étudiants de l'école d'art et du lycée Alexandra Davinel qui ont rencontré Patrick et aussi l'artiste Lorraine Tortil qui les a accompagnés pendant une semaine à travers un workshop, un atelier de pratique artistique. Et donc, Lorraine Tortil, par exemple, s'intéresse à cette question des sons d'alarme, des sirènes, aussi aux sons peu perceptibles qui sont envoyés par les satellites dans l'espace. Elle a réalisé un court-métrage qui s'appelle « En libre suspens ». Qui sera diffusé donc le vendredi 10 février à 14h au lycée Alexandra Davinel. Et c'est une première pour ce film qu'elle vient de terminer, où elle a travaillé essentiellement la bande son, mais illustrée par des images, ce qui est un petit peu prendre le film à l'envers. l'idée de la réalisation en tout cas. Et donc elle a accompagné les lycéens et les étudiants de l'école d'art dans un travail de mixage sonore sans utiliser cette fois-ci la table de mixage. C'est-à-dire qu'elle a utilisé vraiment les micros et les enceintes portatives pour avoir une approche spatiale du mixage sonore. Et donc ces expérimentations, ces créations seront diffusées dans les écoutoirs. Donc on en aura certains à l'Office du Tourisme, à la médiathèque, à la piscine aussi. Il y aura également dans ces écoutoirs des sons pris, enregistrés à l'occasion de balades sonores par les enfants de la petite, de la vraiment petite enfance, dans les structures de la crèche et du petit jardin. Ils ont, depuis la rentrée de septembre, travaillé à découvrir, ou plutôt découvert le musée par le son. Et donc ça donne lieu à un petit enregistrement qu'on vous fait entendre aussi dans l'épicerie sociale et solidaire Gourmandigne. On aura aussi le plaisir d'entendre la médiathèque des plusieurs émissions de radio diffusées sur Radio Zinzine, Fréquence Mistral, et également des radios un peu plus éloignées à Grenoble, Montpellier, comme Radio Méga, Radio Pulsar. Donc, je vais citer ces émissions. On a Commune Oreille, dédiée aux musiques. Alors on a fait une petite entorse à la règle, on a quand même laissé la possibilité aussi aux émissions musicales d'intervenir, donc aux musiques sous licence libre. Et puis Louis Fine qui diffuse sur cette antenne.
Voilà, Louis Fine, réalisé par Jeff et Seb, comme on les appelle ici, Jean-François Blanc et Sébastien Fougerolles. Donc Louis Fine, oui, c'est une émission qui a lieu habituellement le jeudi soir à 21h sur Fréquence Mistral.
Et qui s'est attaché la semaine dernière à faire une émission sur le bruit dans la musique. Diffusé donc à la médiathèque dans cet écoutoir. Il y aura aussi l'émission Kilowatt FM de Radio Zinzine et La Soupe Primitive. Alors ces deux émissions, donc Jérôme et Julien ont eu envie de s'investir encore un peu plus bénévolement et ils ont créé ils ont fait des créations sonores sur mesure pour la semaine du son à Digne, dans certains lieux. Donc ils se sont inspirés de ces lieux pour faire des créations in situ. Donc vous retrouverez à Christelle Coiffure, qui est en face du musée, à la piscine et à la torréfaction. Voilà, ce sera les bulles sonores. Et puis, bien sûr, je vais laisser la parole maintenant au collectif Night Hall, qui a été invité il y a maintenant plusieurs mois par le musée Gassendi pour travailler en résidence sur les archives de Knut Victor, qui est cet artiste sonore, pionnier de l'art sonore depuis les années 60, qui était installé dans le Luberon et dont qui a décidé de céder, de donner au musée le fond de son atelier après sa disparition en 2013. Donc ce fond a intégré la collection du musée et en tant que musée de France, on se doit de le valoriser, de le rendre accessible. Et ce n'était pas une mince affaire puisqu'il s'agit de bandes sonores parfois difficiles à entendre parce qu'elles sont sur des formats anciens. Et donc Julie et Olivier ont entrepris cette grande tâche d'écouter et d'archiver et aussi de porter leur regard singulier d'artiste sur ce grand univers de Knut Victor qui vous a, je crois, complètement fasciné. Voilà, je vous laisse présenter votre travail. Et l'exposition qui est donc inaugurée au musée lundi 6, qui sera présentée ensuite jusqu'à la fin du mois de février.
Bonjour. Donc c'est Olivier qui prend la parole. Alors, ben, parlez-nous de cette grande aventure de Night Hall déjà. Si je mets le micro, c'est mieux évidemment.
Ouais, ça va. Mais pour faire un peu en résumé, en fait, nous, on a rencontré le travail de Knut Vitor il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Au départ, en fait, c'est via une... En fait, c'est un nom qui a été évoqué, puisque Night Owl, bon, on fait ça, Julie, Michel et moi, qui a été évoqué lors d'une session à l'école des beaux-arts de Bourges, où Julie faisait un post-diplôme en création sonore. Donc le nom de Knut Vitor est évoqué, et puis on a regardé ensemble un peu, on était intrigués, et donc ça a été d'abord une découverte par YouTube, par une petite vidéo d'archives de l'INA, où voilà, on découvre ses sons, et on découvre aussi le personnage de Knut Vitor et sa démarche, quels sont ses soucis. Et bon, voilà, pour utiliser une expression un peu ballot, on a complètement flashé, complètement intrigué par ce travail. Et donc on a commencé à essayer de trouver ses sons, à pouvoir écouter ses œuvres et tout. Et à ce moment-là, il n'y avait pas énormément de choses à se mettre sous la dent, sachant que de son vivant, il n'y a que 2 disques qui ont été publiés en 72 sur le label L'Oiseau Musicien de Jean-Claude Rocher, des disques très compliqués à avoir. Et donc, c'est cette espèce de tension entre l'excitation de découvrir un travail dont on pressent l'intérêt, la richesse, l'inventivité, et une absence quasi totale de possibilité de pouvoir le découvrir. Et donc voilà, on s'est lancé dans cette on s'est lancé dans la recherche, en commençant par les 2 très belles émissions, émissions en hommage sur France Culture, où ils ressortent un peu les premières archives, parce que Knut Vitor a quand même dans une très grande, on va dire plus une tradition orale presque, il a beaucoup témoigné, rendu compte, explicité son travail par le biais d'entretiens radiophoniques ou d'entretiens qui ont pu être publiés plus qu'il n'a écrit sur son travail. Comment on a fait ? On a d'abord commencé par retourner la toile, essayer de remettre la main sur ces émissions dans leur intégralité. On est parti ensuite dans le Luberon, se rendre compte aussi du lieu dans lequel il a vécu, travaillé, pris contact aussi commencé à prendre contact avec des gens avec qui il a travaillé. Bon voilà, de fil en aiguille, on nous a fait une proposition il y a un an. C'est l'ADOR, donc l'association pour le documentaire radiophonique, création documentaire radiophonique, c'est ça ?
Association de la diffusion du documentaire radiophonique.
Oui, voilà, je me trompe toujours. donc il nous a proposé, dans le cadre d'une programmation qu'ils organisaient à Paris, les écoutis, de faire une écoute du travail de Knut Vitor. Et donc on s'est lancé dans la création de ce qu'on a appelé un mix-montage, où on s'est intéressé, donc à partir des archives qu'on avait à disposition, où on s'est intéressé en fait à présenter le travail de Knut Vitor, mais à travers ses propres mots, c'est-à-dire à la fois pour des questions des problématiques de droit, de droit de diffusion, mais aussi pour la liberté, la plus grande liberté que ça nous laissait. En fait, on a fait une sorte de recomposition de tous ces entretiens, de tous ces propos, en se focalisant sur finalement comment il travaille et qu'est-ce qui l'intéresse, et quels sont aussi, on va dire un peu, c'est dire un peu un gros mot, mais quelles sont ses hypothèses de travail. Voilà, je te passe là un peu la parole, ou voilà, pour présenter un tout petit peu l'origine de
Donc on écoute, c'est Julie, c'est ça?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Oui, pour revenir peut-être un tout petit peu en arrière, préciser que toutes ces trouvailles qu'on a faites toutes les choses qu'on a pu regrouper, le site Night Owl en fait qu'on a mis en place, c'est on va dire selon la très belle formule de Vinciane Després, qui est une philosophe belge qu'on aime beaucoup et qui va, on pourra y revenir un peu après, mais qui dit passe ce qui te touche et touche d'autres à ton tour. L'idée aussi de ce site et de ce collectif, comme le disait Olivier, c'est un collectif, on va dire, de, pour reprendre ton mot ballot, mais de fans, dans le sens, c'est aussi faire passer des histoires qui nous paraissent être importantes et très contemporaines aussi. Et donc tout ça pour dire qu'on a mis en place cette page sur le site Night Owl autour du travail de Knud Victor pour... déjà, ne serait-ce que pour nous, pour garder une trace physique, on va dire, de toutes ces archives qu'on a pu trouver. Voilà. Et pour peut-être revenir un tout petit peu à une présentation un peu rapide
de l'exposition
l'exposition et peut-être aussi de Knud Victor dont il s'agit.
Oui.
Knud Victor était danois. Et il est venu s'installer en 1961 dans les gorges du Régalon, donc au sud-ouest du Luberon, pas très loin de la Durance. Il est venu s'installer au départ plus pour des histoires de lumière. Il était peintre, en fait. Et il a... alors, il le dit de manière très belle, il dit... petit à petit la lumière s'est transformée en son, c'est-à-dire qu'en travaillant chez lui, voilà, il a été pris aussi par l'environnement sonore dans lequel il était justement plongé. Et peut-être là pour réagir un peu un petit peu à ce qu'on ce qu'on a entendu tout à l'heure, j'ai l'impression et c'est ça je pense qui nous a touché aussi dans son travail, qu'effectivement c'est un artiste sonore, c'est aussi un artiste visuel. Lui se définissait comme sculpteur sonore, la dimension sculpturale des sons est très importante. Je refais un petit saut, mais il a mis au point par exemple un objet qui est conservé dans les archives Adine, qui s'appelle le Tetramix, qui est un objet, une sorte de console à quatre voix qu'il a conçu de toutes pièces. La plupart des outils qu'il utilisait pour enregistrer, c'est des outils qu'il a lui-même fabriqués. Et le Tetramix, c'est une sorte de console à quatre voix sur laquelle il dessinait littéralement les sons pour les spatialiser. C'était une plaque de graphite, recouverte de graphite, avec tout un système qui est encore pour nous un petit peu mystérieux, c'est-à-dire que l'objet là est conservé, comme je viens de le dire, dans les archives, mais il n'est pas en très très bon état. D'ailleurs, à ce propos, dans le cadre de la mise en place de cette exposition, Gaëlle Villot, qui est étudiante à l'école d'art, et passionnée par les rapports art et sciences, qu'on a rencontré, s'est intéressée à l'objet, et l'idée là c'est peut-être d'essayer de reconstituer aussi le mystère de cet objet pour refabriquer un tétramix qui fonctionnerait. Bon, bref, c'est une histoire en cours, mais simplement juste pour revenir sur cette histoire d'environnement sonore, dans le travail de Knud Victor, il y a quand même une dimension collective et pas seulement celle je crois que ça intéresse tout le monde et c'est ça nous qui nous intéresse de faire passer aussi. C'est il a quand même constitué une histoire sonore du Luberon, et ça dès les années 70. Et dès ces années-là, il avait déjà l'intuition. Des gros mots qu'on utilise aujourd'hui, mais anthropocène, etc., c'est-à-dire l'influence majeure des bruits aussi de l'homme sur l'environnement. Lui, il a l'intuition de ça très très tôt, et il lâche les pinceaux, il troque ses pinceaux contre des micros, et il se rend compte et il s'inquiète aussi des sons qui autour de lui disparaissent petit à petit. Donc elle a une vraie conscience effectivement singulière, et en tout cas il a une manière singulière de jouer avec ces sons, et en même temps il y a des documents, des enregistrements bruts qui sont très importants, voilà, par leur qualité et par ce qu'ils nous racontent de sons qui ont disparu, comme par exemple le Petit Duc, qu'il a enregistré pendant... Il a fait des études très poussées sur certains animaux. Le Petit Duc, la cigale, qu'il a observé, enregistré pendant 4 ans, et il dit, quand je suis arrivée dans le Luberon... Personne ne pouvait me renseigner sur la cigale. Au Danemark, il n'y a pas de cigale. Donc c'est forcément déjà un son qui l'a beaucoup intrigué, parce que c'est un son assez impressionnant. Et en fait, quand les cigales se mettent à chanter dans le sud de la France, on sait ce que c'est.
C'est vrai que nous, on s'est habitué. Effectivement, pour un Danois, ça doit surprendre. Oui.
Voilà. Et du coup, il s'est un peu penché sur ce son-là, sachant que personne à l'époque ne pouvait lui répondre comment vivait la cigale. Donc il a étudié pendant 4 ans... 4 ans, l'enregistrant, la scrutant. Voilà, pareil pour les Petits Ducs, où il a passé des nuits et des nuits, comme il dit, à dormir à l'extérieur pour guetter où les Petits Ducs allaient faire leur nid, pour pouvoir poser ses micros avant que les Petits Ducs fassent leur nid, etc. Enfin, c'est un travail aussi, une démarche qui est pleine, voilà, comme je disais au début, d'histoire et d'anecdotes, et très, très, très contemporaine, en tout cas. Voilà.
Merci. Alors l'exposition, c'est vrai que c'est, vous savez bien en parler et ça donne envie de s'y rendre. Ce sera donc à partir du 6 février au musée.
Oui.
Olivier. Alors
quoi?
Les événements qui vont se dérouler au musée.
Donc l'exposition, je ne me rappelle plus très bien si on l'évoquait ou pas, donc l'exposition c'est vraiment une présentation, on va dire c'est un arrangement et une manière de montrer les archives de Knut Victor, beaucoup de, enfin, des archives visuelles, etc. D'écouter aussi quelques sons, bien évidemment. Donc cette exposition, elle va avoir lieu jusqu'au 28 février, certainement, peut-être même déjà on parle de prolongation, on verra. Et donc pendant la semaine du son, on propose quatre événements. Donc le 6 février, ça sera la diffusion du mix montage. Alors peut-être juste un petit point. Mm-hmm. C'est très basique, très pragmatique, mais pour des raisons de configuration des lieux, en fait, chacun des événements va être présenté deux fois. Puisqu'il y a une capacité un peu limitée pour de la salle. Donc chaque fois, tous les soirs, il y a deux fois les événements. Voilà, comme ça, j'aurais plus à le répéter. Donc, et il vaut mieux réserver. C'est gratuit, mais il vaut mieux réserver, puisque voilà, c'est vraiment des contraintes techniques. Donc le premier soir, en fait, on va présenter le mix montage qu'on a déjà évoqué, mais dans une version qu'on a complètement retravaillée en fonction de ce qu'on a trouvé dans les archives d'une part, et d'autre part on va introduire, puisque la quadriphonie, la diffusion quadriphonique est évidemment un élément très important dans son travail et dans la restitution de son travail. On a introduit donc dans le mix montage cette dimension là. Donc ça sera pour le lundi. Le mercredi, alors dans l'après-midi, on organise un atelier pour les enfants et les parents. On va pas rentrer dans les détails, on va peut-être laisser un peu la surprise de comment on va faire ce truc-là.
À la manière de Knut Victor. Peut-être.
Un peu à la manière de Knut Victor. Et le soir, là, on va présenter en fait deux... Donc la deuxième soirée, on l'a intitulée « L'image, c'est le son ». Et en fait, on va présenter donc un des premiers films que Knut Victor a fait, qui est Aquarelle. On va dire qu'il y a un peu un très beau témoignage de ce souci et tout son questionnement et tout son travail autour du rapport entre le son et l'image. Un film qu'il a réalisé en 69, quelque chose comme ça, une dizaine de minutes, et qui sera suivi d'une diffusion en quadriphonie de Image 10, qui est une des dernières images qu'il a composé, une image très on va dire très très géophonique, très très autour de l'érosion. C'est aussi une pièce qui nous a intéressé, qu'on trouve intéressant de diffuser aussi par rapport à ce que lui-même il en dit et comment il la présente comme étant, selon ses propres termes, une espèce de règlement de compte qu'il avait avec l'homme et à la manière dont l'homme détruit ses environnements. On trouvait qu'il y avait il y a à la fois évidemment une beauté de la pièce, mais aussi sans doute une très belle actualité par le son et par la manière dont il poétise ce son-là. Et la dernière soirée qu'on a appelée Tape Game, alors là, on va dire c'est un mix plus dans la veine DJ set un peu plus classique, où là, on va mixer, on va explorer les sons à la fois. À la fois dans les cassettes de Knut Victor, ses propres sons qu'il a enregistrés, mais aussi des sons de gens parce qu'il vivait, il n'était pas tout seul, il était loin d'être seul au monde, et donc il a évidemment rencontré d'autres compositeurs, d'autres créateurs sonores, tout ça on découvre ça petit à petit dans ses archives, donc on va puiser là-dedans aussi, et puis aussi avec des sons peut-être plus contemporains de gens dont on peut dire qu'ils sont qui sont en partie les héritiers de son travail, ou en tout cas des gens qui ont une manière de le prolonger.
Juste un tout petit mot par rapport au fait qu'on travaille en collaboration pour imaginer ces soirées, notamment l'image c'est le son, la deuxième soirée, avec l'association Allô la Terre. C'est Camilla et Marc Victor du coup qui sont en charge de cette association, qui est là aussi pour la diffusion du travail de Knut Victor et notamment au Danemark. Voilà, ils ont une page sur les réseaux sociaux si jamais voilà.
Oui, ça va être bientôt l'heure de nous quitter.
Rappeler, alors, si possible, en soirée, on va retrouver d'autres événements qu'on n'a pas mentionnés.
Oui.
Si tu veux dire un dernier mot.
Il vous reste 5 minutes, ça va?
Le jeudi 9, au Théâtre du Rance, il y aura l'expérience musicale Fantôme, un léger roulement sur la peau tendue qui est notre tympan, qui est un spectacle de Benjamin Dupé. Il y aura aussi le vendredi 10 au Café Le Millésime, une soirée festive avec DJ set de Kilowatt FM. Je voulais aussi vous conseiller de retrouver tout le programme sur le site du Musée Gassendi, www.museegassendi.org, où vous aurez les informations pratiques pour réserver donc les événements de Night Hall, trouver tous les lieux aussi de diffusion de ces nombreux événements. Et aussi, vous renseignez si vous voulez venir visiter l'exposition accompagnée d'une médiatrice ou en utilisant l'application Gassendi Curiosity qui permettra de donner des commentaires sur d'autres œuvres sonores de notre collection, dont Allô la Terre aussi, qui est une œuvre de Knut Victor, une cabine téléphonique. Voilà, donc vous pouvez tout à fait venir visiter pendant tout ce mois l'exposition en étant accompagné du service des publics du musée.
Voilà, alors juste pour les réservations, ça veut dire que combien de personnes par soirée pour
25?
La jauge est de 25 par séance d'écoute au musée, donc 50 par soirée, puisque tout se joue deux fois. Voilà, et puis ensuite pour l'atelier, on est sur environ 10 enfants, plus leurs parents, donc là aussi, il faut penser à réserver à 14h le mercredi.
Donc on réserve par téléphone au musée?
Oui.
Et on rappelle le numéro de téléphone?
04 92 31 45 29.
31 45 29, merci à tous.
Et bien sûr, tous ces événements sont gratuits.
Sont gratuits, voilà. Vous vouliez dire quelque chose?
Je ne sais pas si on a le temps.
Alors, il nous reste deux minutes.
Peut-être plutôt écouter le son de...
Voilà, on va se quitter avec le son que vous avez amené. Vous vouliez en dire deux mots de ce...
Image. Un C. Donc voilà, encore simplement souligner ce beau titre qui est une image. Mais il s'agit évidemment d'un son.
Voilà, on va se quitter donc sur Knud Victor, image 1. Et merci à tous et à bientôt à la semaine du son, merci à partir du 6 février. Au revoir. Thank you.